Dis, tonton Aurèle, tu pourrais nous raconter une histoire?
Ok, ça s'appelle « Gros poisson dans une petite mare ». Ça parle des gens qui se donnent trop d'importance. Vous êtes prêts, les enfants?
Ouais.
Ok. Jessica marche torse bombée dans les rues de son village. On lui donne 20 ans, elle en a 17 derrière le maquillage. C'est la biatch la moins moche de son bled paumé. Donc tous les gars du coin rêvent de la dégommer. Ses projets c'est d'arrêter les cours, monter à la capitale pour devenir actrice ou faire du mannequinat. Ses rêves de starlette lui montent à la tête. Plus rien n'est assez bien pour elle à part le strass et les paillettes. Elle sort avec Nico, 26 ans, physio. Rien dans le crâne, tout dans la lacrymo. Dans la boîte, c'est lui qui fait la loi. Il est du genre à...
A-t-on encore besoin d'une hiérarchie dans une boîte en 2021? Dans notre ère où on essaie de tout changer, de tout disrupter. C'est la question que vous nous avez posée et on a décidé d'y répondre aujourd'hui avec Romain. Ça va, Romain?
Ben oui, ça va les gars. Alors on a Manuel à distance aujourd'hui.
Exactement.
Ça va, Manuel?
Ouais, ça va et vous?
Ben ouais, super. Manuel est en déplacement, donc on a quand même voulu garder ce rendez-vous hebdomadaire avec la communauté. Et,
oui, parce que sinon les gens nous tapent et c'est aussi un bon test de savoir si la qualité audio convient, etc. Alors ce sera forcément moins bon que d'habitude avec les bons gros micros qu'on a, mais bon, Manuel, on t'entend quand même, donc ce sera un test. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
Voilà, et puis on pourra pas se faire de doigt d'honneur, Manuel, cette fois-ci.
Tu nous manques beaucoup, Manuel.
C'est gentil. Vous aussi.
Oh, ça sort du cœur, ça. Alors, sur un autre sujet, Manuel, qu'est-ce que tu en penses de cette question de la hiérarchie dans une boîte?
Alors, ça dépend de la question. Qu'est-ce que je pense de la hiérarchie dans une boîte ou qu'est-ce que je pense de la nécessité d'une hiérarchie dans une boîte?
Tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une hiérarchie dans une boîte ou alors il faudrait mettre tout le monde au même niveau et ce serait plus productif comme ça?
Moi, je pense que la définition d'une entreprise, ce n'est pas la démocratie et c'est encore moins l'holacratie. On y reviendra peut-être. Qui est un modèle qui s'est développé. Par définition, une entreprise, ce sont des individus qui se rejoignent autour d'un projet, qui prennent des risques ensemble à travers les capitaux financiers qu'ils engagent pour créer cette entreprise et qui attendent de l'activité de cette entreprise une forme de performance économique et, si possible, de la satisfaction. Mais on a souvent un rapport un peu, j'ai envie de dire, enfantin à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on pense à l'entreprise comme j'ai choisi ce boulot parce qu'il me plaît bien, etc. etc. Mais si on se met au niveau des racines de ce qu'est une entreprise, finalement, une entreprise, c'est vraiment ça. C'est des capitaux qui se convoquent, qui croient au fait que l'activité de cette entreprise va fabriquer de la plus-value, donc de la valeur ajoutée, qui va faire en sorte que leurs capitaux se développent et qu'ils soient un peu plus riches par l'activité de cette entreprise. Donc, par définition, une entreprise, c'est pas un modèle démocratique puisque c'est orienté vers le fait de faire fructifier les capitaux des fondateurs. Et pour cela, dans les moyens nécessaires, il y a avoir des clients, les satisfaire et les fidéliser, et avoir des collaborateurs qui font partie de l'instrument de production.
C'est ouf parce que c'est à la fois complètement vrai. Et à la fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui essaient de faire croire à leurs collaborateurs et donc employés qu'ils ont autant de place que les dirigeants, que sans eux, la boîte n'existerait pas. Je trouve qu'on est de plus en plus là-dedans, et ce qui est complètement faux, en fait, au lieu d'assumer exactement ce que tu dis, Manuel.
C'est une vérité... qui est parfois difficile à admettre quand on la décrit comme cela, mais pourtant c'est tout à fait implacable. La réalité d'une entreprise dans le monde capitaliste, c'est celui-là. Alors après, on peut développer et on va développer le modèle hiérarchique et le modèle managérial, parce que je pense que la question qui nous est posée sur qu'est-ce que vous pensez de la hiérarchie, etc. En fait, il y a dans cette question quels sont les différents modèles managériaux, et sachant que ces modèles sont différents d'une entreprise à l'autre et d'un secteur à l'autre. Alors évidemment, on va parler pour les industries qu'on connaît, donc surtout les industries liées au numérique, aux entreprises à forte croissance et aux services. Voilà, on ne prétend pas que tout ce qu'on va dire s'applique à tous les secteurs,
comme tous nos podcasts.
Certainement pas à l'industrie, etc., etc. Ouais. Comme on nous dit souvent, on comprend pas les réserves d'usage. Ça y est, elles sont citées, les réserves d'usage. Mais c'est vrai que la description que je fais d'une entreprise ici, qui est une description assez technique et basique, souffre d'une vérité parfois difficile à entendre. Or, la vérité, c'est comme le sperme. Soit tu le prends dans la gueule, soit tu as du mal à l'avaler.
Même à distance.
Ah, mais même à distance. C'est incroyable. Non, mais c'est super intéressant de différencier l'aspect managérial avec l'aspect hiérarchique, parce qu'au final, oui, ça peut être deux choses complètement différentes.
Et parce que, Romain, ce que tu disais, le fait de faire croire à tes collaborateurs que vous avez la même place, etc., pour moi, ça, c'est vraiment pas la nature même de l'entreprise, mais c'est plus du management, de faire croire aux autres qu'ils ont la même place, alors qu'en fait, dans la hiérarchie, véritablement, c'est pas du tout le cas.
Et je pense que ce qui est important, c'est de laisser la parole aux postes qui peuvent l'avoir, et on le voit dans même des énormes industries. J'ai pu rencontrer des grands directeurs et autres qui me disaient qu'ils allaient au fin fond du garage parfois pour juste avoir un feedback d'une personne. Je pense évidemment à Luca Di Meo. Donc il y a cette hiérarchie, mais je pense qu'effectivement il faut rentrer en profondeur pour comprendre la différence managériale aussi, qui est complètement différente et qui ne doit pas laisser paraître le fait que t'es un manager, et c'est pas pour autant que tu ne peux pas, je pense, de temps en temps t'adresser au big boss qui n'a rien à voir avec toi, dépendant des moments de l'année.
Oui, c'est pas parce qu'il y a une hiérarchie qu'on peut pas de temps en temps briser ça. Elon Musk est un très bon exemple de ce que tu dis là. On le voit en lisant sa biographie, qu'il y a plein de moments où il va se salir les mains en touchant des réacteurs, etc., des pièces de fusée. On se dit, mais ce mec-là, à sa place, devrait pas faire ça. Ça l'empêche pas de le faire.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mais c'est aussi parce qu'en France, on a une vision assez presque académique, un peu bourgeoise de ce que c'est que l'entreprise. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans la tête que plus tu montes en responsabilité, moins tu dois te salir les mains.
Ce qui
n'est pas tout à fait le modèle dans d'autres cultures, et la culture anglo-saxonne, en parlant d'Elon Musk. Ces modèles-là ne sont pas construits comme ça. Plus tu te hisses en responsabilité, plus tu dois comprendre les doueurs, et tu as la charge et la responsabilité de la vision et la responsabilité des gens qui ont fait confiance à cette vision. Et en fait, quand on regarde les entreprises, il y a déjà différents modèles hiérarchiques possibles. Alors, en école de commerce, il y a des gens qui font des écoles de commerce qui nous écoutent, on dit qu'il y a 5 types d'organisations possibles. Je vais aller assez vite pour les citer, mais il y a l'organisation qu'on appelle personnalisée. Donc, c'est une organisation qui se cristallise autour d'une personne. On pourrait citer Apple, Steve Jobs, tout était organisé autour de lui, ou presque, en fait, et de sa vision. On a une organisation qu'on connaît plus en France, qui est l'organisation de type bureaucratique. Elle est quasiment la même que l'organisation personnalisée, sauf qu'au lieu de se cristalliser autour d'une personne, elle se cristallise autour d'un process. Cette organisation a pour objectif de produire du process de la conformité. C'est très fiable, mais c'est pas incarné, et ça ne respire pas la vision. Et puis ensuite, on a l'organisation duale. C'est une organisation qui sépare l'objectif, la vision, des moyens, et qui les met dans une logique de séparation de pouvoir. Donc il y a des gens qui sont responsables d'atteindre l'objectif, et il y a d'autres personnes qui sont responsables des moyens pour atteindre cet objectif et de la régulation de ces moyens. Donc ça existe dans d'autres types d'organisations. Et puis ensuite, il y a l'organisation pyramidale, celle qu'on connaît le mieux en France. Donc un boss, des étages managériaux empilés les uns aux autres comme des millefeuilles. Et puis tu te rends compte que la distance entre le boss et les équipes opérationnelles, tout le middle management a tendance finalement à dégrader la qualité de la vision, enfin, c'est mon avis. Et puis le dernier type d'organisation qui existe, c'est l'organisation cellulaire. En fait, c'est une organisation en network. On crée des petites cellules qui sont totalement autonomes, qui ont à peu près tout pour fonctionner toutes seules, et qui sont interconnectées les unes aux autres et qui collaborent les unes avec les autres. Est-ce ça, que c'est les cinq modèles d'organisation qu'on enseigne classiquement dans les écoles de commerce. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'une entreprise, quand elle est petite, elle a un modèle d'organisation. Et quand elle grandit, elle a en fait plusieurs modèles d'organisation. Mmh. Elle peut être une organisation de type personnalisé à la tête de l'entreprise, le CEO et son board, et être une organisation cellulaire près des lignes opérationnelles, les gens qui font, qui eux sont organisés plutôt en network, par petites cellules, etc. Mais en fait, les organisations n'ont qu'un modèle quand elles sont petites, mais quand elles grandissent, on fait cohabiter plusieurs modèles les uns avec les autres, et là, ça devient assez intéressant.
Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, que chez Apple, à une époque, il y avait plusieurs personnalités au sein de la boîte? Par exemple, dans l'équipe design, est-ce que c'était très personnalisé autour de Johnny Ive?
On pourrait presque dire ça, mais la réalité, c'est qu'il était adoubé par Steve. Ouais. Qu'il n'y aurait jamais pu y avoir quelqu'un à ce poste qui n'était pas adoubé par Steve. Donc, c'était plus une délégation de pouvoir qu'autre chose. Apple okay. est vraiment une boîte de type organisation personnalisée. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une exception parce que on connaît assez peu d'exemples d'organisations de type personnalisé qui a atteint cette taille-là avec ouais. ce succès-là et cette ouais. capacité à scaler. Parce que le problème de ces organisations, c'est qu'elles ont du mal à scaler. Et souvent, pour qu'elles puissent scaler, il faut que l'intégralité de la communauté des collaborateurs, des gens qui composent l'entreprise, accepte la tyrannie du visionnaire.
Mais je pense que l'exemple plus récent, et il y en a très peu, c'est Elon Musk, mais parce qu'il a fait beaucoup de projets en fait. S'il avait fait que Tesla, peut-être qu'on entendrait moins parler de lui. Là, c'est parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses qui ressemblent à un Tony Stark, mais c'est vrai qu'il y a peu d'exemples comme ça.
Moi j'en ai un, c'est Amazon, qui fonctionne justement avec plein de petites équipes de manière cellulaire, c'est ça que tu disais, Emmanuel ?
Oui.
Amazon, c'est ce que j'avais pu voir. Je sais plus quelle était la règle. C'était une fois que le projet ne peut pas être géré par voilà. Attends, vas-y, re-raconte. Elle était géniale.
Manuel la connaît très bien.
Ah oui, c'est génial. Le concept de la pizza chez Amazon est top. Il dit en gros que sous la porte, on laisse l'espace d'une boîte à pizza. Et si dans la pièce, il y a une équipe qui ne peut pas être nourrie par une pizza, alors cette équipe est trop grande, il faut la dissocier.
C'est génial.
Il faut la séparer en plusieurs équipes. Donc c'est ça la règle sur la pizza.
Et ça, c'est un peu extrême, non ?
En fait, c'est le concept et l'idée qu'il faut garder. C'est vrai qu'à partir d'un moment, il y a des seuils critiques à partir desquels, si tu ne splits pas, commencent à s'installer des différences de vitesse, des différences de niveau, des espèces de petites baronnies. Des notions de j'étais là avant toi, donc j'ai plus de privilèges que toi, etc., etc. Quand tu crées des petites équipes qui sont toutes expressément tendues vers l'objectif et dont elles savent qu'elles ont une durée de vie limitée, puisque quand l'objectif sera atteint, cette équipe va se dissoudre et d'autres équipes vont naître autour d'autres projets, donc les équipes ont une durée de vie éphémère, se composent et se décomposent autour des projets, ça crée beaucoup de dynamisme dans les entreprises. Donc, c'est une autre façon de procéder.
Et pour parler peut-être un peu plus aux gens qui nous écoutent, moi, j'ai une question. On démarre une activité, elle est jeune, elle a peut-être 2-3 ans, tu te retrouves avec 5-6 personnes qui travaillent beaucoup autour du même objectif. Tu fais finalement un travail que tu prends comme un travail plutôt personnel tous les jours où tu te dis, bon, bah, si je m'extrais de cette équation, du jour au lendemain, je ne suis pas remplaçable. C'est faux, puisque si demain celui qui nous écoute meurt tragiquement, et j'en suis d'avance navré, je ne souhaite en aucunement ça, la vie continuera. Comment tu fais, Manuel, à passer justement ce cap-là purée, je vais y arriver un jour, et à chaque fois, même à distance, Manuel me déglingue, pour passer ce cap-là, le fait de te dire jusqu'à présent ça a fonctionné comme ça, demain on change tout, ça fonctionnera plus comme ça, mais ça fonctionnera mieux qu'avant. Comment tu fais pour changer l'état d'esprit des collaborateurs, de tes clients et du business actuel qui fonctionnait d'une autre manière 24 heures avant ?
D'abord, il y a un truc tout à fait simple à comprendre, c'est que personne n'est irremplaçable. Personne. Absolument.
C'est toi, Manuel.
Personne. C'est gentil.
Il a envie d'avoir des beaux bureaux l'année prochaine. C'est pour ça.
Donc, la nature ayant horreur du vide, les équipes s'organisent différemment, etc., etc. Alors après, c'est subi si jamais ça n'est pas organisé et prévu. ou au contraire c'est organisé parce que on a senti venir le truc, quelqu'un va partir, on va dire temporairement ou définitivement s'il va dans le cloud. Et donc à partir de là, bah, les gens s'organisent. Donc un, personne n'est irremplaçable. Et si le projet est grand, si les gens croient en ce projet et en la vision, ils vont continuer à servir ce projet, cette vision, avec ou sans la présence de cette personne. D'ailleurs, mon point de vue personnel, c'est que l'exigence doit être sur le projet et la vision, et que la meilleure façon d'honorer quelqu'un, c'est de continuer à servir le projet et la vision, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs admirablement bien les équipes d'Apple, qui ont été humainement affectées par la sortie dans le cloud de Steve, oui. Mais qui ont continué à servir la vision, à servir le projet du mieux qu'ils pouvaient, et on peut dire que les performances sont toujours là. Après, on peut critiquer, je connais le débat sur le degré d'innovation d'Apple, machin, etc. C'est pas le sujet. En attendant, beaucoup avaient prédit le cataclysme et la fin d'Apple à la mort de Steve Jobs. Il a démontré qu'une organisation personnalisée, entièrement structurée autour de sa personne, était capable, par la puissance de la vision et la puissance des valeurs et la qualité des humains et leur sélection, de survivre à la disparition de son fondateur. C'est rare, mais ça existe.
Et toi, Manuel, chez Imakina, vous vous êtes organisé comment ?
À quel niveau ?
Hiérarchique.
Alors, nous, on a une organisation qui est de type network, donc qui est assez cellulaire, dès que tu t'approches du terrain. C'est-à-dire que on a une organisation qui distribue beaucoup de pouvoir, qui responsabilise beaucoup les gens, qui leur donne beaucoup d'autonomie dans leur choix, dans l'organisation de leur temps, dans la façon dont ils travaillent. Ça fait très longtemps qu'on pratique le télétravail, ça fait très longtemps qu'on est dans une relation de confiance avec nos collaborateurs. On ne contrôle pas à quelle heure ils sont, où et ce qu'ils font. On contrôle effectivement l'avancement et la qualité de ce qui est fait. Donc on est dans ce type d'organisation-là, ce qui peut désarçonner certaines personnes d'ailleurs. Parce que quand tu arrives chez Imakina, on te dit il est plus important de faire que de demander la permission. Il est plus important de rater des choses que de demander l'autorisation. Mais c'est propre à notre industrie. On est dans une industrie où il y a de la croissance, on est dans une industrie où la vitesse est un élément déterminant de ton succès. Et il faut privilégier la vitesse et l'apprentissage permanent et la correction de ce que tu sais pour l'adapter à la réalité du marché. Donc on a construit une organisation qui est une organisation apprenante, qui est une organisation qui donne beaucoup d'autonomie aux gens, ce qui peut effectivement être un peu déstabilisant. Je suis sûr que Romain aurait des anecdotes à raconter là-dessus, parce que ça peut être étonnant, voire choquant. Maintenant, quand on se rapproche de la stratégie et de la vision, on a une organisation qui est quand même cristallisée autour des fondateurs, des associés, de la vision du marché.
Bah, pour mettre un exemple sur ces mots, au sein d'Imakina Influx, qui est une filiale du groupe Imakina, parfois, on a des rendez-vous avec des clients d'Imakina qui sont gérés par d'autres gens chez Imakina, et on n'aura jamais, au grand jamais, cette sensation de devoir absolument demander l'autorisation à la personne qui gérait ce client chez Imakina pour lui parler et autres. On peut directement mettre en place un call qui n'est rien à voir avec un projet actuel chez Imakina pour aider et servir le client, parce qu'on a tous la même vision au sein du groupe, qui est de comment faire plus de business à un client grâce au numérique.
Et comment vous arrivez à...
Oui, c'est exactement ça. Pardon, Léo.
T'inquiète. Comment vous arrivez à faire appliquer cette hiérarchie, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de rébellions, de gens qui ont envie de se sentir un peu plus que ce qu'ils sont, qui ont envie de plus s'investir et qui sortent parfois même de leur poste et de ce qu'on leur demande. Je sais que toi, Manuel, t'as dû en gérer beaucoup, Romain aussi, il y a quand même pas mal de personnes maintenant qui sont passées par ta boîte et qui y sont encore. Quand il y a des gens qui comprennent pas trop leur rôle et qui en sortent un petit peu, qui sortent un petit peu des limites, surtout, comme tu le dis, Manuel, quand tu leur donnes quand même beaucoup de liberté, comment vous faites pour faire respecter cette hiérarchie ?
En fait, c'est pas tellement le respect des hiérarchies, c'est le respect de l'efficacité. Mmh. C'est-à-dire que à un moment, on donne beaucoup de liberté aux gens et on les laisse prendre des initiatives. C'est-à-dire que moi, j'incite les collaborateurs à se rebeller. Je les incite à bypasser leur management. J'arrête pas de leur dire, mais vous avez les coordonnées directes de tout le monde. Moi, l'intégralité des collaborateurs d'Imaxia ont mon email, mon numéro de mobile, un canal de chat ouvert avec moi, ils peuvent me parler. Et j'arrête pas de me battre pour leur dire, mais j'en ai rien à foutre que vous passiez par votre manager pour me parler. Si vous avez un truc à me dire parce que vous en avez parlé avec votre manager, ça fait deux fois que vous le dites et que ça avance pas assez vite, vous ouvrez votre chat et vous me le dites à moi.
C'est dingue. Pourquoi ? D'imaginer ça à l'échelle, juste pour les gens. Imakina aujourd'hui, le groupe, c'est quand même 50 000 personnes dans le monde. Juste pour imaginer.
Ouais, c'est vrai que Imakina reste un des PAM. Maintenant, ça fait quand même un peu de monde. Donc, oui, c'est vrai. Mais il faut se battre contre ça. Je pense que on se bat plus pour faire exister cet esprit-là. Qui est un esprit de rébellion, de recherche d'efficacité, etc., que pour contrôler les gens qui ont des initiatives malheureuses. Parce que dans la grande majorité, les gens ont des fois des initiatives, mais ils sont très lucides, ils se rendent compte de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, et ils s'autorégulent. En fait, on passe beaucoup plus d'énergie avec le management à inciter les gens à se dépasser et à sortir de leur carcan et de leur ligne mentale que à les réfréner. C'est peut-être contre-intuitif, mais pourtant c'est bien de cela dont on parle. On a envie de leur dire, mais vas-y, essaye des trucs.
Ce qui me fait marrer, c'est d'entendre le discours de Manuel et d'avoir à ma gauche Léo, qui a du mal à juste déléguer son montage vidéo YouTube.
Oui, mais ça c'est pour d'autres...
Mais t'as délégué d'autres choses quand même.
Ouais, je commence à déléguer, mais même le montage, là, je suis en train de chercher des gens pour le faire. Et justement, ça rejoint un peu la question que je me posais, c'est à partir de quand, dans une boîte, tu hiérarchises ? Est-ce que tu le fais dès que vous êtes deux dans la boîte, ou est-ce qu'il y a un nombre minimum ? Et me dis pas la pizza, parce que la pizza, moi, on a peut-être pas celle des Américains, mais je la défonce tout seul, donc pour moi, ça marche pas l'exemple de la pizza. À partir de combien de personnes dans une boîte, est-ce que tu commences à avoir besoin de mettre une hiérarchie ?
Moi, je pense que t'en as besoin dès le premier jour. Tu peux être même la seule personne dans cette boîte, déléguer et créer un système de collaboration efficace. Ça existe même dans les boîtes de une personne. Parce qu'une boîte, elle ne s'arrête pas aux frontières de ses employés ou de ses murs. Une boîte, c'est son écosystème, c'est son comptable, c'est ses partenaires, c'est ses conseils, c'est ses clients, c'est ses fournisseurs. Si tu mets, c'est ses freelances, etc., etc. Si tu mets tout ce beau monde en collaboration, et dans un système où les idées peuvent s'échanger à certains moments pour en débattre, et puis à d'autres moments, tu décides, et puis à d'autres moments, tu fais appliquer, au final, tu as un système de collaboration qui est très efficace alors que tu n'as aucun employé. Donc ça s'adresse même aux auto-entrepreneurs. Souvent, on dit que les entrepreneurs souffrent de cette solitude, mais ils en sont souvent aussi les premiers responsables, parce qu'ils ne convoquent pas des tonnes de forces qui sont disponibles autour d'eux. Et une entreprise, pour vivre, pour fonctionner, elle a besoin de partenaires, et souvent ces partenaires sont très bienveillants. Ils ont très envie de partager leurs connaissances, leurs savoirs, leurs expériences, leurs expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et d'en faire profiter les autres. Donc on connaît tous des gens... qui ont des choses à partager, mais simplement, beaucoup d'entrepreneurs ont envie d'affirmer des choses plus que de poser des questions.
Ouais, c'est exactement ce qui me fait penser, moi, à la plupart des gens que je rencontre qui essaient d'entreprendre et qui voient chaque mission associée à une personne, pour avoir le plaisir de dire à la fin du mois, ouais, on travaille avec 10-15 personnes tous les mois. Et parfois, quand on me retourne la question, et je salue Thomas qui monte ce podcast, je leur dis, ah bah, moi, ma chaîne YouTube, bah, c'est... Oui, on a des prestataires, mais c'est surtout une personne qui m'aide en post-prod. Et souvent, ils sont étonnés. Mais je suis jamais parti du principe qu'il me fallait beaucoup de gens. Je suis plutôt parti du principe qu'il me fallait beaucoup de compétences. Ouais. Et les compétences, t'as pas besoin de les chercher de manière distillée entre 10 personnes, quoi.
Et depuis tout à l'heure, on dit que c'est extrêmement important, voire vital, d'avoir une hiérarchie. Mais on n'a pas tellement expliqué pourquoi. Qu'est-ce qui se passe demain si vos boîtes n'ont plus d'hiérarchie?
En fait, c'est une très bonne question et elle permet de préciser ce à quoi sert la hiérarchie. La hiérarchie sert à libérer les équipes du poids de la décision et à leur donner un confort de travail. C'est à ça que doit servir une hiérarchie efficacement, de mon point de vue. Quand une hiérarchie fait bien son boulot, elle produit de la liberté, elle produit de la réassurance et elle produit du confort pour les équipes opérationnelles. Quand une hiérarchie peine, ce qui peut arriver, hein, je veux dire, le monde n'est pas linéaire, hein, y a des moments où tout va bien, il y a des moments où c'est plus difficile, on est tous interconnectés à une économie mondiale, à un contexte, il faut s'y adapter, des crises économiques, sanitaires, etc. Donc tout ça n'est pas linéaire, il y a des moments up et des moments down, c'est plus difficile, les gens le vivent moins bien, on est obligé de passer par des phases transformatives, on teste des choses, on rate, etc., etc. En fait, ce qui est le plus important, c'est malgré les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, malgré les modèles managériaux qu'on peut changer, chez Imakina, on change de modèle managérial très souvent. Il y a des réorganisations entre 12 et 18 mois, à peu près. La boîte a 25 ans, donc je te laisse compter le nombre de réorganisations qu'on a fait. Pourquoi ? Parce qu'on est sans arrêt dans l'optimisation du modèle. Et il y a certains, et par moment, il y a des modèles de réorganisation qui n'ont pas fonctionné, qui ont échoué, et qu'on a dû réajuster plus vite que prévu. On pensait qu'en s'organisant comme ça, ça allait produire ça, et puis finalement, ça n'a pas produit ça. Moi, je pense que il faut revenir à l'essence de ce qu'est la hiérarchie, c'est-à-dire faire peser sur ses épaules le poids du confort de travail pour les équipes, de la sérénité de travail pour les équipes et des valeurs de clarté, de sincérité dans la vision. Et pas du tout un modèle paternaliste. Une entreprise, ça n'est pas une famille. Moi, je supporte pas les entreprises qui disent
c'est
bien
horrible.
Vivre dans la famille.
Le truc de start-up.
On a un baby-foot, viens.
Non, si on est une équipe, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Voilà, moi c'est ce que je pense. Mais on pourrait aller dans le modèle, on pourrait s'arrêter deux secondes sous un angle que moi j'aime bien analyser en général quand on nous pose des questions, c'est l'angle sociologique. Et je trouve qu'il y a un paradoxe à notre époque. C'est que d'un côté, on a une génération de gens qui arrivent sur le marché du travail, surtout dans nos industries, qui recrutent des compétences sortis d'école ou autodidactes et qui ont du talent. On va dire que cette génération-là qui arrive sur le marché du travail dit deux choses paradoxales. La première, c'est je veux choisir mon employeur comme j'utilise mon bulletin de vote. C'est-à-dire que mon employeur, c'est aussi l'adhésion à un projet, l'adhésion à une vision. Je veux servir une cause et une vision. C'est ce qui va me faire choisir ce boulot. Alors effectivement, encore une fois, on est dans une industrie qui souffre de peu de chômage, etc., etc. Donc on est plutôt privilégié. Donc d'un côté, on a cet élément-là. Je veux choisir la vision que je sers et je veux avoir un impact. C'est-à-dire je veux mesurer ma contribution dans cette organisation personnelle. Je veux pouvoir mesurer mon impact sur la progression des choses. Et de l'autre côté, ils veulent un modèle qui donne à la fois beaucoup d'autonomie, mais qui en même temps est extrêmement rassurant. Parce que ce sont les générations dont leurs parents ont été pris par la précarité, par les grandes années chômage, par la désindustrialisation du pays. Donc on est face à des gens qui ont besoin d'adhérer à une vision, veulent mesurer leur impact, veulent de la liberté, et en même temps, ont besoin d'être rassurés, ont besoin que le management dépasse les questions de travail et devienne une espèce de guide pour eux dans leurs valeurs et leur élévation. Et donc, il y a là-dedans plein d'injonctions paradoxales, et c'est pas simple à gérer.
Ben, le plus paradoxal, et moi ce que j'entends le plus, c'est dans ma vie, jamais je voudrais de patron, jamais je veux de gens au-dessus de moi, en parlant de hiérarchie. Et à chaque fois, ces gens, quand ils arrivent dans le marché du travail, ils se prennent une putain de claque parce qu'en fait, ben, ton client est au-dessus de toi, à la fin de la fin. C'est lui qui te paye, donc même si t'es tout seul sur ton propre bateau, imaginons que t'arrives à tout faire tout seul, il y a forcément quelqu'un autour de toi qui va jouer un rôle, quoi.
Je me reconnais beaucoup dans ce paradoxe, donc je peux très bien en parler, parce que moi, effectivement, je pourrais pas bosser dans un taf dans lequel j'ai vraiment un patron au-dessus de moi qui me dit absolument quoi faire, et en même temps, j'en ai besoin. J'ai quand même besoin de quelqu'un qui me pousse à faire des choix et à avancer plus vite, etc. S'il n'y a pas Imakina Influx, je fais assez peu de vidéos au final.
Mais Imakina Influx n'est pas ton patron, c'est
exactement.
Un leader.
Je suis un peu dans un entre-deux qui est parfait au final.
Et je pense que justement, la différence à avoir aujourd'hui, c'est qui est un leader et qui est un patron. Un patron, pour moi, et c'est ma vision, hein, mais Manuel, tu peux me contrer, mais c'est une personne qui a besoin d'appuyer ce pouvoir sans pour autant montrer le bon exemple. C'est juste qu'il est content d'avoir ce rôle de patron. Et un leader, pour moi, c'est carrément au-dessus du patron parce qu'il en a rien à foutre d'imposer quoi que ce soit. Il veut juste essayer d'apporter sa vision et sa façon de faire à une boîte et pour une même équipe. Et du coup, il vient par l'idée une équipe entière. Donc, il a même pas besoin d'obliger les gens à faire puisqu'en fait, il fait tellement bien lui-même que les gens ont envie d'être inspirés et de faire aussi bien que lui.
Puis je me reconnais beaucoup sur ce truc de liberté dont parlait Manuel, parce qu'effectivement, Imakina Influx, qui est donc l'agence qui me représente, on en a parlé dans un précédent podcast, me donne beaucoup de liberté dans le sens où ils me disent, si t'as des vidéos à faire, etc., machin, on te donne des sponsors, on s'occupe d'une partie de la prod, etc. Maintenant, fais ce que tu veux, tu nous proposes un sujet, on en discute, etc. Donc je me retrouve beaucoup dans cette liberté. Et en même temps, j'ai cette semi-pression qui me dit, on a ça à te faire faire, on va te faire travailler, tout ça. Donc moi, ça me booste vachement. Donc d'un côté, je veux surtout pas de patron, et en même temps, j'aime bien ce petit coup de boost qui me pousse à aller plus loin que ce que je ferais naturellement.
Et à ce que disait Romain en disant, c'est vrai, moi aussi, je croise beaucoup de gens, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui disent « Ah, mais moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, etc. » Souvent, je leur dis « C'est parce que vous n'avez pas travaillé pour des gens inspirants. » Parce que travailler pour des gens inspirants, c'est très motivant. Et on ne se sent pas du tout restreint dans sa liberté. Quand on travaille avec un bon leader, il vous encourage à plus de liberté. Mais il vous encourage aussi à plus de responsabilité. Il vous dit « Tu as besoin de moyens, tu crois à ton projet, explique-le-moi, convainc-moi. Une fois que je suis convaincu, je te donne les moyens. » Et tu as la responsabilité de réussir. Mais en fait, souvent, ces gens veulent de la liberté, mais c'est surtout ne pas rendre de compte. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Ouais.
Ils veulent pouvoir se leurrer eux-mêmes face à leurs responsabilités. Se trouver une espèce d'excuse face à certains échecs. Ou être capable de storyteller que leur boîte n'a pas réussi pour telle et telle raison, et surtout pas à cause d'eux. Et la quantité de start-upers qui pitchent des fonds d'investissement ou des investisseurs, comme je peux l'être dans certains cas, est assez significatif de leur psychologie. Moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui me dit « je veux pas de patron », c'est pas un souci, mais ça l'empêche pas de travailler dans une boîte. Il peut parfaitement avoir un leader. Il peut parfaitement avoir quelqu'un qui l'inspire.
Excuse-moi. C'est une critique qui est énormément faite envers Steve Jobs et ses pratiques managériales. C'est le fait qu'il était très insistant, qu'il pouvait être insupportable au travail, etc. Et il y a toujours cette critique-là. Et en fait, il y a des gens qui ont bossé pour lui pendant 20-30 ans et qui ont continué à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bossé avec ces pratiques-là qui sont soi-disant insupportables et qui, au final, à la fin de la vie de Steve Jobs, disent maintenant dans des livres, etc., dans des ouvrages, en fait, effectivement, c'était très difficile, mais ça m'a porté tellement loin. Et j'ai fait tellement de choses que j'aurais pas fait sans lui et sans ses techniques managériales, etc., même s'il était parfois un peu insupportable, que effectivement c'est discutable, mais en fait il y a des gens qui ont simplement envie d'être boostés, qui ont envie d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils croient possible. Donc après c'est à vous de jauger, de voir votre personnalité, votre ambition, etc., et c'est comme ça que vous allez choisir le poste que vous pouvez occuper.
Autant il y a des sujets...
La vertu d'un leader, pardon. Comme on n'est pas ensemble, c'est difficile de se caler. c'est vrai que c'est pas notre configuration habituelle. La vertu d'un leader, c'est qu'il il te stimule dans le dépassement de toi. Mmh. Et on sait que la progression, l'élévation, elle se passe quand tu es dans l'inconfort, quand tu vas chercher tes lignes de retranchement, quand on te met face à des responsabilités qui te dérangent. Et la vertu d'un leader, c'est de faire ça en ne confondant jamais le fait de juger le travail qui n'a rien à voir avec le fait de juger la personne. Ton leader, ton boss, il a le droit de juger ton travail, il n'a pas le droit de te juger en tant qu'individu. D'abord parce qu'il ne te connaît pas en tant qu'individu. Il ne te connaît pas dans ta vie privée, il ne connaît pas toute la dimension de ta personne. Donc son avis sur toi en tant qu'individu n'est pas relevant et n'a rien à faire dans vos conversations. Par contre, il a le droit de juger ton travail. Et c'est son devoir de te challenger, c'est son devoir de te pousser dans tes retranchements, et c'est son devoir de parfois te faire mal pour te faire progresser.
Il y a un exemple dans mon entourage très concret, c'est Quentin, il occupe quel poste chez Imakina, Quentin ?
Il est lead créatif.
Mais il est lead créatif, je sais que quand il est arrivé chez Imakina, il avait des semaines qui étaient chargées, mais alors là, ça fait peut-être un an, c'est devenu un monstre.
Ouais, de ouf.
C'est aussi la personne qui s'occupe du motion design de mes vidéos, et la progression en un an, elle est exceptionnelle. Et je sais que j'en ai déjà parlé avec lui. Lui me disait que, bah, effectivement, il avait beaucoup de travail et qu'au début, c'était chaud et que parfois, il y avait des semaines qui étaient très compliquées où il se dit, mais comment je vais faire? Mais en même temps, il est extrêmement reconnaissant de ce truc-là, de dire, mais putain, mais en un an, j'ai fait ce qui m'aurait pris 10 ans à apprendre.
Mais il faut quand même remettre les choses au clair. Pour moi, tu n'apprends que véritablement dans la difficulté. Mmh. Quand t'es en vacances, bah t'évolues pas vraiment. Tu t'es bien, tu vis, ouais. mais il y a que quand tu te. Moi, je suis dans une période comme ça en ce moment, donc je peux en parler très très bien. Là, en fin d'année, c'est compliqué. Il y a des moments où je me réveille et je me dis putain, dans 5 heures, ça redémarre déjà. Mais c'est comme une drogue. C'est exactement comme une drogue quand tu deviens passionné, parce qu'on a encore une fois la chance d'être vraiment très privilégié dans cette industrie du numérique. C'est à la fois très difficile, mais d'un autre côté, tu as tous les outils pour apprendre beaucoup plus vite qu'à n'importe quelle époque, et c'est complètement génial, quoi. Mais c'est dur, c'est sûr que c'est difficile. Donc, dépendant des sociétés dans lesquelles vous allez vous retrouver, effectivement, dépendant du leader, ça va vous demander beaucoup d'abnégation, mais ça produira des résultats, ça c'est sûr.
Et des managers, parce que ces managers, ils doivent profondément aimer leurs équipes. On peut pas gérer des équipes, on peut pas les emmener avec soi si on ne les aime pas, si on ne les respecte pas. À un moment, si on ne respecte plus les gens qui travaillent pour soi, ou si on trouve qu'ils sont inadaptés, la première responsabilité qu'on a, c'est de s'en séparer, pour leur redonner de la liberté et leur dire tu vas être malheureux ici. Et le but du travail, c'est pas de rendre malheureux. Le but du travail, c'est d'apprendre des choses, de produire de la valeur et de socialement passer de bons moments avec des gens qu'on respecte et qu'on admire même par certains égards. Et ces managers-là, leur job, c'est d'aimer suffisamment leurs équipes pour alterner les moments où tu exploites des connaissances que tu as durement acquises et qui te produisent de la satisfaction parce que tu vois que ça produit des résultats, avec d'autres périodes où tu es dans le dur et tu te bats pour acquérir de nouvelles connaissances et tu te confrontes à des difficultés. Et c'est l'alternance de ces deux moments qui crée cet équilibre où tu es motivé entre « je sais que je vaux quelque chose parce que je vois bien que ce que je produis est de bon niveau et de bonne qualité et mon niveau augmente », CF Quentin, et en même temps je suis challengé tous les jours mais intelligemment pour m'améliorer, pour progresser, pour devenir encore meilleur, pour me battre face à mes propres limites et les repousser sans cesse. Et ce dosage là, ce rythme là est très précis et très précieux, et toute cette qualité managériale, c'est ce qui fait qu'un manager est bon. Et comment on juge un bon manager, bah c'est parce que c'est les équipes qui le disent. Il faut que les managers soient jugés par leurs équipes. Il faut pratiquer le management à 360. Il faut que le boss, il y a entre lui et ses équipes des managers à qui il a donné cette responsabilité-là que de créer le meilleur écosystème pour que la qualité s'exprime et que l'épanouissement s'exprime et que la nouveauté s'exprime, l'acquisition de compétences s'exprime, eh bien, il faut qu'il soit soucieux d'aller demander aux collaborateurs, sans passer par les managers, ce qu'ils pensent de leur manager. Il faut qu'ils demandent aux collaborateurs des équipes de scorer leur manager. C'est comme ça qu'on ne crée pas des petites royautés et ces petits chefaillons de merde qui règnent sur leurs équipes comme la misère sur le monde et qui font que certains vivent des enfers, font des burn-out, se sentent désavoués, déconsidérés, etc., etc. Pour autant, on n'est pas dans l'angélisme. Il arrive qu'à certains moments, il faille se séparer de certaines personnes. Et il y a des gens qui ont été adaptés pendant un certain nombre d'années à la vie de cette entreprise et puis qui ne le sont plus au bout d'un moment. L'ancienneté n'a aucun rapport avec tout cela. L'ancienneté ne donne pas des privilèges. L'ancienneté, elle donne des responsabilités.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est dingue, mais ça, c'est un truc, pour le coup, Manuel, que tu m'as pas mal inculqué. C'est à un moment, c'est quand t'es plus proche d'une personne ou autre dans la société, tu te dis, bon, bah ça passe. Mais en fait, non, ça passe 10 fois moins que si tu la connais pas. Parce que vu que tu la connais, au contraire, et vu que t'as ce devoir de responsabilité, bah t'es censé savoir. T'es censé le faire bien du premier coup.
T'en as rien à faire de te faire insulter par un inconnu dans la rue, mais par un proche qui est avec toi depuis 10 ans, ça fait un peu plus chier, quoi.
Ouais. On vient de retourner, je pense, quand même une bonne partie du marché, en tout cas français, que moi je connais à peu près, parce que vraiment tout ce qu'on vient de dire là, c'est quand même pas vraiment corrélé à ce que je vois au quotidien. Pour ce que je vois ou à ce que je vois, du coup, là, les gars?
Avec.
De ce que je vois au quotidien,
ouais,
en tout cas.
Bien, c'est bien. Ouais, deux, c'est bien.
Ben, on s'était promis de faire un podcast un peu plus court. Une vingtaine de minutes, il fait 42 minutes.
Ouais, on est à voilà. 43 minutes. Ouais, bon, écoutez, ça a l'air d'être notre format, visiblement, parce qu'on avait dit 20-25 minutes. Comme Manuel n'est pas là et que le son est un peu moins bon, ce sera parfait, les gars. Et finalement, on avait des choses à dire sur ce sujet que vous nous avez proposé.
Hashtag TechOut, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Et on écoute toujours vos questions par audio aussi dans la description de chaque TechOut. Merci en tout cas, les gars, on a passé un putain de bon moment là. C'était intéressant, je trouve.
Écoutez, merci, c'était cool de faire ce podcast malgré la distance. Et l'inconfort d'audio certainement que vous aurez subi en écoutant ce podcast, mais on était content de le faire pour vous et de garder le rythme. Et on vous promet de revenir dans la configuration habituelle le plus vite possible. C'était à cause de moi, je m'en excuse.
Oui, bah ce sera toujours à cause de lui d'ailleurs. Donc
C'est comme ça, c'est la hiérarchie qui veut ça. À très vite, ciao tout le monde.
Bye bye.
Un air supérieur. Conclusion. C'est pas parce que t'es la plus bonne du village que t'es bonne. Non. C'est pas parce que tu gardes l'entrée de la boîte que t'es le boss. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, t'iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras compte.
Dans une petite masse.
Le roi des fourmis, le prince des soufis. Je te parle de bluff, d'excès d'orgueil, d'abus de pouvoir.
Dans une petite masse.
Le roi des fourmis, le prince des soufis.
Dans une petite masse.
On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire.